Laurent Géronimi, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur de la gestion taux chez Swiss Life Banque Privée. On va parler avec vous, bien sûr, de ce post-Brexit pour les marchés financiers. Alors justement, sur cette partie obligataire, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, de significatif sur ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu, bien entendu, la forte baisse d'indices boursiers sur les actions, mais sur la partie obligataire.
Donc, il y a en premier lieu un niveau historique pour le taux de rendement de l'emprunt à 10 ans allemand, qui a été proche de moins 0,10%. Donc il avait déjà flirté avec un niveau négatif, mais là ça a enfoncé le clou, donc ça continue actuellement. Il faut rappeler que le 30 ans suisse, quand il y a eu un premier sondage qui était favorable au Brexit, a atteint un niveau négatif, donc au niveau 30 ans en Suisse. Aujourd'hui, ce qu'on observe, et ce qu'on a observé vendredi, c'est qu'à l'ouverture, le spread des obligations risquées et dites à haut rendement s'est tendu avec un niveau supérieur à celui de la faillite de Lehman. Donc il y a eu un effet, un choc comparable à celui de Lehman, voire supérieur à cause de la problématique bancaire.
Est-ce que on entame de nouvelles semaines sur les marchés, cette nervosité peut-elle continuer ou est-ce que finalement elle va un petit peu s'essouffler parce qu'on n'a pas finalement beaucoup de visibilité sur ce qui va se passer?
Alors, vous l'avez dit, c'est une incertitude, c'est un manque de visibilité. Le choc a été très fort vendredi à l'ouverture parce que toute la semaine, en fait, et sous l'effet des sondages qui étaient favorables au Remain, donc et là on a eu l'effet inverse. Donc évidemment, il y a eu un choc, une violence donc dans la baisse des bourses qui s'est traduit aussi sur les spreads obligataires. Et puis tout d'un coup, il y a un peu un effet Tchernobyl, on va dire. C'est-à-dire que Tchernobyl, on disait voilà, on met un sarcophage, le réacteur s'est fissuré, et puis ça reste, le nuage reste au niveau des frontières. Puis on se rend compte qu'il y a une onde de choc politique. Bon, évidemment, au Royaume-Uni, avec l'Écosse qui pourrait demander un deuxième référendum sur son indépendance, l'Irlande qui voudrait se réunifier, et puis au niveau de la zone euro, il n'y a pas actuellement une unité de parole vis-à-vis du traitement du Royaume-Uni. Donc cette incertitude, on la retrouve. Les élections espagnoles étaient un premier test. Et donc finalement, le parti d'extrême-gauche, Podemos, a perdu des voix. Donc on se rend compte que par rapport au discours des leaders politiques au Royaume-Uni, tout d'un coup le peuple se méfie des leaders politiques. Et tout ce qui est extrême, tout ce qui est changement, aujourd'hui il faut le faire dans une atmosphère apaisée. Donc pour nous, on peut y aller sur des cours extrêmes. Nous avons osé acheter un petit peu vendredi au moment de la baisse. Actuellement, nous sommes très prudents, nous avons toujours des positions de liquidité très importantes, mais il faut observer ce qui va se passer.
Alors justement, on peut dire que ces échéances politiques sont arrivées dans un contexte économique pas forcément très favorable. On a vu, en tout cas sur la croissance économique mondiale, on a vu la Réserve fédérale américaine attendre justement cette date clé et puis visiblement reporter sa décision de monter les taux. On est toujours dans ce contexte où on ne voit pas la hausse de taux américain arriver.
Non, et le marché d'ailleurs là ne va plus du tout puisque le 10 ans américain est aux alentours de 1,50 alors que nous sommes en fin de cycle aux États-Unis, donc a priori il devrait être beaucoup plus important. Ce qu'on observe de toute manière au niveau mondial, c'est une stagnation du revenu réel et ça pose problème. Donc on voit bien que la politique de quantitative easing, et la Fed était la première à l'initier, a porté ses fruits à un moment donné, qu'aujourd'hui on a du mal à en sortir, que la Banque Centrale Européenne, dans le contexte en plus du Brexit, est condamnée à injecter des liquidités, la Banque d'Angleterre, j'en parle même pas, et la Banque du Japon également, puisque la Chine ne va pas si bien que ça, puisque actuellement on n'a pas quand même une certitude que la Chine ait une croissance économique très favorable. Donc dans ce contexte-là, effectivement, le Brexit rajoute une incertitude politique, puisque, je viens de le dire, les politiques monétaires arrivent à bout de souffle. Donc ce que les marchés attendent aujourd'hui, ce sont des gestes politiques forts, des gestes d'espoir, une nouvelle orientation politique qui va donner un sens à l'économie.
Alors pour les entreprises, il y a aussi des questions. On a vu déjà le secteur bancaire, on a vu en Italie 40 milliards d'aides pour les banques, enfin en tout cas de besoin de soutenir un certain nombre de secteurs. On a vu ce qui se passe bien sûr au Royaume-Uni. Il y a des secteurs qui peuvent être plus touchés que d'autres dans ce contexte-là.
Oui, donc le secteur bancaire évidemment, puisque donc Londres est une place financière très importante. Le Brexit pose la question de la place financière de Londres, donc des banques anglaises, qui sont d'ailleurs des banques systémiques. Donc la question des banques anglaises est une question qu'on doit traiter au niveau mondial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a quand même aujourd'hui une problématique de profitabilité des banques, puisque la solvabilité fait qu'elles doivent consacrer beaucoup moins de fonds propres aux activités de marché à cause d'un coût du risque. Ça, c'est la réglementation. Donc, mécaniquement, leur profitabilité baissant, le fait que l'économie stagne, elles ont moins de revenus liés à la partie injection de crédit, bien qu'il y ait eu des aides des banques centrales dans ce cadre-là. Donc, la problématique bancaire demeure très importante.
Alors, pour l'investisseur, toujours la même question, on va dire depuis des mois, même voire des années maintenant, c'est la question du rendement, d'aller chercher là où il doit aller trouver du rendement. On pourrait dire aussi qu'entre les actions et les obligations, finalement, le marché obligataire, on a pu gagner de l'argent sur les marchés obligataires.
Là, sur les emprunts d'État, on ne peut plus gagner d'argent puisque, en fait, ceux qui s'endettent sont rémunérés pour s'endetter. Donc, les emprunts d'État, il faut le regarder de très loin. Après, au niveau des entreprises, également, vous avez aujourd'hui des entreprises de premier plan, comme Air Liquide ou Pernod, qui sont venues s'endetter sur les marchés avec des taux de rendement actuariels compris entre 0% et 1%. Donc, on voit bien qu'également, aujourd'hui, les entreprises lèvent sans difficulté par rapport au taux de rendement négatif des capitaux. Maintenant, elles ont une trésorerie pléthorique, elles ont des bilans qui sont totalement restructurés. Il n'y a qu'une problématique, c'est qu'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de confiance. Donc à un moment donné, est-ce qu'on n'aura pas des pressions déflationnistes telles qu'effectivement, tant sur les marchés des obligations que sur le marché des actions, on pourrait avoir un krach lié finalement à une crainte d'une japonisation de l'économie mondiale?
Est-ce que ça veut dire pour l'investisseur qu'il a presque par obligation, il va aller sur les marchés actions, alors en profitant peut-être de certaines baisses, il ne peut pas toujours les en profiter, mais c'est pour aller trouver ce rendement.
Oui, parce que finalement, ce sont les banquiers centraux qui l'orientent dans ce cadre-là. Vous voyez, la Banque Centrale Européenne, le fait que le gisement des emprunts d'État devient de plus en plus problématique en termes de support, en tout cas pour de fourniture de support à acheter, s'est réorienté depuis le 8 juin dernier sur des emprunts d'obligations d'entreprise d'excellente qualité. Et juste à titre indicatif, le Wall Street Journal a publié une idée du revenu et de la volatilité. En 1995, vous pouviez avoir 7,5% annuel avec une volatilité de 5%. En 2015, donc on est aujourd'hui 20 ans plus tard, vous avez ce même rendement de 7,5% avec une diversification extrême. Donc vous avez du private equity, vous avez un peu d'actions, vous avez un peu d'immobilier, vous avez des obligations au rendement, vous avez des produits structurés, etc. Vous avez ces 7,5%, mais avec 17% de volatilité. Donc, c'est quoi le message quand vous avez des taux négatifs? C'est que si vous voulez de la rentabilité, il faut accepter de prendre du risque.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Laurent Géronimi.
Merci.